Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. Troisième lundi du mois, il est 18h passé de quelques minutes. C'est la société d'Antus d'État avec Lulu à la technique. Bonjour Lulu.
Salut.
Mohamed au micro. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux clowns, deux hommes de spectacle, de cirque, de théâtre et de plein d'autres choses. À l'occasion de la sortie du livre « Le radeau céleste, itinéraire d'un clown sicilien » de Pierre Fatus, publié aux éditions Julien Nègre, et Nino Montalto, qui est juste à côté de moi, à ma droite, et Pierre Fatus, qui est à côté de moi, à ma gauche, sont les deux protagonistes de ce livre, qui nous raconte donc l'itinéraire d'un clown sicilien, donc l'itinéraire de Nino Montalto. Alors, des clowns, on en voit plein à la télé tous les jours, on lit plein d'œuvres de clowns, mais moi j'avais envie de parler du clown avec un C majuscule, le vrai clown, et j'ai la chance d'avoir là deux clowns, des vrais clowns qui sont là. Le grand clown. C'est quoi un clown ? Nino, est-ce que tu peux me donner ton avis sur l'idée du clown ? C'est quoi pour toi le clown ?
C'est un rebelle.
Ah, d'accord, c'est très beau ça.
C'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux.
Ouais.
D'ailleurs, à l'époque, notre mot d'ordre, c'était « Il faut se prendre au sérieux pour que rien ne le soit plus. » C'est quelqu'un qui se moque de soi-même, l'autodérision. C'est quelqu'un qui transmet de la joie, la bonne humeur.
Ouais.
C'est quelqu'un qui nous fait rêver. Tout le temps.
Ouais, alors je peux témoigner là, à tous nos auditeurs que depuis le temps que je fréquente le radeau, on va revenir après sur le radeau, mais depuis le temps que je fréquente le radeau et que je te vois, toi, Pierre et plein d'autres sur scène, c'est vrai qu'au niveau rêve, on est servi. Du rêve, de l'émotion, du rire, de la joie,
oui,
de l'émotion aussi.
Le sentiment, il est très important dans le travail d'un clown.
Ouais.
C'est-à-dire... Le clown, il travaille bien sûr avec une technique, mais cette technique, elle est assaisonnée du cœur, l'humanité.
Ouais.
Il faut que tu prennes ton public comme si c'était des vieux copains que tu connais depuis longtemps, même si tu les as jamais rencontrés.
Mais quand on te voit sur scène ou quand on voit tous ceux avec qui tu travailles, ceux que tu annonces dans ton spectacle, c'est pas la technique qu'on voit en fait. La technique, on finit par l'oublier, on la voit plus, on sait qu'elle est là.
On la dépasse tout le temps.
Voilà.
Ça, c'était. Ça, c'est le métier.
Oui, c'est le métier. J'imagine.
Ça, c'est le métier.
Ça fait combien de temps que tu fais ce métier, Nino ?
Là, j'ai fêté mes 55 ans de carrière.
55 ans, donc tu as commencé
très jeune.
Très tôt.
Mais j'étais pas bon à 14 ans.
Hein? Oui, tu as commencé à 14 ans.
Ouais, j'étais pas bon de tout. On n'est pas bon.
On n'est pas bon non plus. Oui, on apprend.
Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais avec des banquistes.
Alors, des banquistes, c'est quoi ça, les banquistes ? Explique-nous un peu les banquistes. D'abord, tu as commencé où ? C'était où ? Dans quelle région de...
En Sicile.
En Sicile.
Province de Messine.
D'accord.
À Briga Marina.
Briga Marina.
Village. Oui. Non, mais je te raconte une petite histoire, mais je ne veux pas être longue aussi,
non,
parce
non,
que
mais...
je vois.
Prends
tu
ton
sais,
temps.
À 14 ans, j'ai été orphelin.
Ouais.
J'ai perdu mes parents.
Oui.
Voilà. Et là, ils m'ont mis dans un orphelinat, chez les curés.
Oula.
C'était pire qu'une prison. Donc, j'ai fait la fuite.
Ouais.
En nuit, j'ai pris mon sac, et j'ai traversé les barricades et je suis parti. J'avais pas un sou, j'avais pas de rond, et donc j'ai dormi dans des Porsches, dans des cartons, tout ça. Après, il y avait quelqu'un qui m'aidait, un sandwich, un truc. Jusqu'à quand je suis tombé dans ce village à Briga Marina, et qu'est-ce que j'ai vu ? Compagnia de Artevaria. C'est le nom de mon association. Et là, j'avais, c'était des banquistes, des nomades, des manouches, qui faisaient là un spectacle en plein air, sans chapiteau, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et donc là, j'allais les voir, je dis, j'espère, est-ce que je peux travailler avec vous? Et le mec, le directeur, Rimorchio, et il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, rien. Ah, super, tu peux venir avec nous. Parce que si tu sais faire rien, tu peux tout apprendre. Après, il m'a dit, et dis-moi, parce qu'on parlait padouin, hein, oui. En sinti. Et il m'a dit, est-ce que tu sais écrire l'italien? Je dis, bien sûr. Voilà, on t'embauche comme secrétaire. Et voilà, donc je faisais tous les paperasses auprès de la mairie, tu sais, l'électricité, l'eau, tout l'emplacement.
Et donc à 14 ans, tu t'es retrouvé secrétaire d'une troupe de saltimbanques.
D'une troupe de saltimbanques. Voilà. Et mais après, naturellement, du moment que je savais parler la langue de Dante, officiel. C'est pas spaghetti al dente. Hein? Oui. Et donc, au bout il m'a dit, écoute, Nino, il faut que tu t'occupes dans l'intervalle, dans l'entracte de la loterie.
La loterie,
oui. Oui, c'est-à-dire tous les gens, tu sais, qui rentraient, ils avaient un petit ticket, oui. Tu vois. Et moi, dans l'entracte, j'ai sorti les tickets pour donner des lots. Ouais. Mais auparavant, tout le matin, j'allais chez les commerçants à chercher de l'eau. 6 tasses de café, 6 assiettes pour les pâtes, une carafe d'eau, toutes ces choses-là. Et moi, je faisais la loterie. Alors, ah, madame Gilberti a gagné 6 tasses de café. Que tout le monde applause. Et là, le directeur m'a dit, Canina, t'as du talent, hein. Tu parles bien, les gens ils t'apprécient beaucoup parce que tu transmets une sympathie, hein, et t'as un charme fou. Ah bon? Et là, un jour, il m'a mis comme ouvreur de rideau.
Alors là, c'était tes débuts sur scène.
Ah oui, ouais. Ouvreur de rideau. Ouais. C'est-à-dire, ça. Il y avait le batteur Arturo, ouais. Vinci, génial. Ouais. Et là, j'ai ouvert le rideau. Et l'artiste, il rentre. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je tire la gande pour ouvrir le rideau, la gande s'est cassée. Donc l'artiste, il est rentré, le rideau, il s'est refermé tout de suite. Ouais. Seulement que l'artiste, c'était pire que Ubu. Il avait un ventre énorme. Et le ventre, il est resté entre le rideau et la scène. Et les gens, ils riaient. Et lui, derrière, il me disait « imbécile ». Imbécile.
En fait, tu as commencé ta carrière sur un gros bide.
Complètement. Après, un jour, le directeur m'a dit, écoute, Lino, il y a l'assistant magicien qui il a la grippe, donc tu le remplaces. Ah bon? Il m'a appris deux, trois trucs. Et on faisait le tour de la cuillère. C'est-à-dire que lui, il mettait une cuillère dans son verre, et moi, j'avais un fil invisible, et il fallait que je bouge pour faire bouger la cuillère. Mais là, la ficelle, il a cassé. Et le magicien, imbécile. Après, ils m'ont appris à jongler, ils m'ont appris à le cheval, l'acrobate, mais tout ce que je faisais, c'était mauvais. Mais mauvais, le flop des flops, mais les gens, ils riaient.
Donc tu as vraiment été à l'école de la rue, l'école du cirque ambulant.
Les nomades.
Voilà, oui, les nomades, les tziganes qui allaient, donc voilà. Vous alliez de village en village dans la Sicile.
Donc je finis mon histoire, je sais. Hein. Mmh. Et au bout d'un moment, le directeur, il m'appelle, Nino, il faut que je te parle. J'ai dit, merde, il va me licencier. Il m'a dit, écoute-moi bien. De magicien, de jongleur, d'acrobate, de chevalier, il y en a des milliers dans le monde, et tous beaucoup plus bons que toi. Ah, merde. Mais, tu sais, tu as un don de nature. Tu fais rire les gens. Mm-hmm. Pour le moment, tu les fais rire inconsciemment. Mais tu as un don. Et là, je vais te mettre dans les farces finales, les entrées de clown. Et là, il m'a appris le début de mon métier. Voilà.
Pierre, donc, toi aussi, tu fais partie de cette famille donc, du cirque, du spectacle et des clowns. J'imagine que tu n'as pas forcément le même début de carrière que Nino.
Je ne me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Fallus. Fatus. Pierre Fatus, c'est ça. Voilà. Non. Alors, si je suis Zizi... excusez-moi. Oh là là, c'est la radio, là, j'ai du moule, j'ai du mal à me mettre en branle, enfin en route, oh là. Non, j'aimerais pénétrer mon sujet, enfin aller droit au pute. Oh pute, oh non, donc, il faut que ça suce, il faut que ça cesse, c'est stupide, hein. je lapsus sans cesse, je ne sais pas si c'est la climatisation, je ne suis pas très en verge, je veux, j'ai des problèmes déjà, je suis en chaleur, bon... Non, je m'appelle Pierre Fatus et à 5 ans, j'ai dit à ma mère, maman, je serai clown, mais un clown sérieux.
Ouais.
Et j'ai un clown tatoué sur l'épaule, il m'a jamais quitté et c'est mon plan de carrière.
Ouais.
Bien réussir l'échec.
Et est-ce que tu es satisfait de cette...
De mon échec ?
Oui.
Pleinement. Alors pleinement parce que là, j'ai rencontré Nino il y a bien des années.
Ouais.
Et en fait, il m'a demandé, là on a fait une association de bienfaiteurs, c'est-à-dire qu'il m'a demandé, toi qui es clown, est-ce que tu connais le métier, est-ce que tu pourrais écrire ma biographie ? Et donc on est parti sur cette idée-là, et ça a donné ce livre qui est ma dernière création en fait, parce que moi je suis un homme de scène, mais j'ai toujours écrit aussi.
En fait, c'est la biographie d'un clown écrite par un clown.
C'est la bio d'un clown, écrite par un clown, et c'est sur les clowns. C'est-à-dire que c'est un livre, j'ai pas voulu uniquement me limiter à une biographie, j'ai voulu, à travers l'itinéraire de Nino, parler d'un monde dont je suis amoureux, ce monde du théâtre, ce théâtre, comment dire, c'est un théâtre qui est toujours hors des temples.
Oui.
De marbre hors des temples avec programme en quadrichromie, c'est un théâtre de la rue, un théâtre qui n'est pas finalement honoré, mais qui existe depuis la nuit des temps.
J'ai regardé bien dans le détail, hein, le bouquin, j'ai pas trouvé de tarte à la crème, j'ai pas trouvé des chaussures immenses dans lesquelles on se prend les pieds, j'ai pas trouvé... Vous savez, l'Auguste tout blanc avec...
Alors, un jour, on m'a dit... quelqu'un a dit que j'avais avalé mon nez rouge.
Ouais.
Et c'est un peu ça. C'est que moi, j'ai fait le clown avec nez rouge, maquillé. J'ai fait mes classes comme Nino.
Ouais.
J'étais à l'école du cirque. J'ai zigzagué sur presque tous les continents. Et j'ai finalement, moi, j'ai ingéré... toutes les techniques du clown pour en créer un plus moderne d'apparence. En fait, je n'aime pas le clown quand il fanfaronne, quand il prévient, attention, je vais être drôle avec une hélice sur la tête et une plume dans le cul. Non, j'aime bien le personnage élégant des burlesques américains.
Ouais.
Et là, il y a une autre famille de clowns dont je fais partie.
Nino.
Non, c'est-à-dire que nous, on est très loin du folklore stéréotypé du clown. Moi, j'ai vécu une expérience. Parce que c'est vrai, à mes débuts, je me maquillais, j'avais un nez rouge et tout ça.
Il y a une très belle photo dans le livre, on te voit, voilà. Magnifique.
Mais qu'est-ce qui s'est passé un jour? Pour des raisons de tempête, les gamins ne pouvaient pas venir au cirque. Donc le directeur de l'école, il a dit, écoutez, envoyez-nous les clowns qui jouent dans le préau, à l'école. Et nous, on est arrivés, et dès qu'on s'est présenté, maquillé et tout ça, tous les gamins ont commencé à pleurer.
Inca.
Et là, on a tout de suite compris. Ils sont pour l'extrémité. la proximité, tu vois, parce qu'au cirque, on a 6 mètres de distance. Mais là, dans le préau, on était à 2 mètres. Et là, les gamins, ils ont commencé à pleurer. D'accord, on dit une petite entracte tout de suite. On est passé, on s'est démaquillé, déshabillé complètement, et on est rentré en civil, sobre. Et là, c'était un succès fou.
Mais alors moi, ce que j'aimerais dire sur le clown, c'est un mot maintenant, c'est comme le Pierrot de la Commedia dell'arte, c'est devenu un cliché, gesticulant, un espèce de pantalonnade qui n'a pas de sens. Ouais. Et il y a le clown McDonald, qui n'a plus aucun sens humain, qui est d'ailleurs une pancarte de pub pour vendre des McDo, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis, je n'aime pas le conflit entre, il y aurait une tradition, parce qu'il y a ça dans ce métier, il y a des intégristes de la tradition du clown, et puis de l'autre côté, il y a des novateurs complètement perchés. Et moi je suis entre tous les mondes, le seul clown qui m'amuse, c'est celui qui me fait rire. Voilà. Et ça va de Galabru à Jim Carrey, en passant par le Popov sur scène, ou des numéros magnifiques de Dimitri. Et le clown, il fait un bras d'honneur à ces frontières-là. Ouais. Et le clown fait un bras d'honneur à toutes les frontières. La vision que j'ai du clown, elle est bien plus, elle est peut-être complètement inexistante. Ouais. C'est une chimère que je poursuis, qui est un espèce d'acteur idéal, qui est un acteur plein d'émotions, qui peut faire pleurer, qui peut faire rire, mais qui n'a pas sa seule forme, c'est qu'il fait un lien par le rire. Mais il n'a pas une forme préconçue ou homologuée, estampillée. Non, il n'y a pas de... Il y a des clowns au cinéma, il y a des clowns au théâtre, il y a des stand-uppers qui ont une dimension de clown. Voilà.
On voit bien à travers ce que vous dites tous les deux, à la fois la grande richesse qu'il y a dans ce métier, la façon dont vous l'abordez avec toute l'expérience que vous avez, et j'imagine que derrière tout ça, il y a des heures, des jours, des années de travail pour arriver justement à faire passer toute cette émotion, cette joie, ce partage que vous communiquez aussi bien. Mais en même temps, on sent que il y a une réflexion, enfin que tout ce que tu viens de nous exposer là, c'est le résultat d'une grande réflexion à travers toutes tes expériences, à travers ce que vous avez partagé. Et on va développer, on va aller un petit peu plus loin dans l'historique et dans l'histoire du radeau, de la troupe et le regard que vous avez tous les deux sur ce métier.
Bah, le clown, pour moi, quand je parle d'un idéal, ça va loin. Hein. C'est-à-dire que, et c'est plus du tout drôle, je vais peut-être ennuyer tout le monde, mais pour moi, il y a même un idéal de société, il y a un idéal de rapport humain, un idéal de... Ça transgresse tout ce qui nous enferme. Quand je vois la société dans laquelle on est en train de plonger... Et chacun d'y participer pour la construire, mais quelle épouvante. Ouais. Ouvrez les fenêtres, ouvrez les frontières. Le clown, c'est un nomade. Le cirque est nomade, la culture est nomade. C'est un mensonge de nous raconter que la culture est française, que le nationalisme est un mensonge absolu, qui revendique des valeurs chrétiennes de partage qui n'existent pas. C'est très drôle, hein, ce que je dis. Oui.
Tu es sur Radio Libertaire, hein, donc il n'y a aucun problème ici, c'est
Mais
tout à fait...
Je parle de tout ça parce qu'il y a des mensonges culturels, des mensonges intellectuels qu'on nous vend à longueur de journée sur les ondes et partout. Et le clown, c'est un joyeux pied de nez à tout ça, parce que c'est l'authenticité de la vie, c'est juste... Et moi, si je peux modestement faire une heure de partage avec Nino tous les dimanches, moi je suis le roi du pétrole.
L'appuntamento e all'otto in punto i cinque chiai aspettati. Tu scina coppa, mezz'ora dopo è l'ambalato di ruova. Che signorina, che tipo fina, che modellina che così. A più bella mezza folla, certe quella che aspetti. Scisci piazza dei martiri e a piazza di caga. Nulli uno tenemente a calma, nulli una rapa bocca là. Scisci piazza dei martiri appena spunto tu. Tutto l'uomo a te, tutte femmine a me, fanno a gara per giofre un caffè. Ciao frufru, ciao nanna, tanti cari saluti a mamma. Ciao di qua, ciao di là, tutta gente contenta che fa. Scisci piazza dei martiri, tu vuoi che venga là. Ma si ti già va sa, mi sa tanta caga, tu mi dici come già fa. Io so all'antica, io non mi vecchio, mi sa che sta riesce manfù. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute niente più. All'otta sera, ma basta scuro, due tre sospiri in braccio a te. Tu sei bella, tanto bella, senza tanti decolte. Scisci piazza dei martiri e a piazza di caca. Nulli uno tenemente a capo, nulli una rapa bocca là. Scisci piazza dei martiri appena spunto tu. Tutto l'uomo a te, tutte femmine a me, fanno a gara per giofri o caffè. Ciao frufru, ciao nanna, tanti cari saluti a mamma. Ciao di qua, ciao di là, tutta gente contenta che fa. Scisci piazza dei martiri, tu vuoi che venga là. Ma si ta già va sa, piazza tanta caga, tu mi ha dicendo come già fa. Piazza dei martiri, tu vuoi che venga là. Ma si ta già va sa, piazza tanta caga, tu mi ha dicendo come già fa. Scisci, scisci, che guai chi sto scisci.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans unimètre ni publicité de la Fédération anarchiste. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez nous joindre pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Et aujourd'hui, dans la société, dans tous ses états, nous accueillons Pierre Fatus et Nino Montalto autour du livre Le Radeau Céleste, itinéraire d'un clown sicilien, paru il y a quelques jours aux éditions Julien Nègre. Et dans une première partie de l'émission, nous parlions du clown des clowns et comment Pierre et Nino voyaient cette image, ce personnage du clown. On vient de passer une musique napolitaine. Tu peux nous en dire quelques mots, Nino, le titre, l'auteur
Oui. Il s'agit de Roberto Murolo. C'est un personnage très emblématique dans les systèmes alternatifs. Musical italien. C'est quelqu'un qui a été mis en prison par Mussolini parce qu'il était communiste et homosexuel. Et là, voilà, c'était une petite chanson. Il parle de l'employé municipal.
D'accord.
L'employé municipal qui ne gagne pas un rond. À la fin du mois, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, un copain lui a dit, écoute, il faut que tu te maries avec la plus riche du village. Et lui, il a choisi la plus riche, mais c'était aussi la plus moche.
C'est ce qui a failli t'arriver, toi, non ?
Oui, mais elle n'était pas moche, la mienne. Et lui, il a choisi la plus moche, mais à la fin des comptes, il s'est perçu qu'elle était moche, mais elle n'était pas riche de tout. Donc, il a dû recommencer à travailler pour payer ses dettes.
Il est napolitain, hein, c'est ça, ce chanteur.
Napolitain. Ouais.
Alors... Le radeau, on va en venir au radeau. Le radeau céleste, c'est quoi ? C'est une troupe ? C'est un théâtre ? C'est une bande de copains ? Comment on peut définir
ça ? C'est un concept.
Un concept, voilà. Vas-y, un concept.
C'est un cabaret nomade.
Ouais.
qui s'est métamorphosé, c'est un caméléon, avec une troupe qui change tout le temps, avec un noyau dur. Mais c'est des artistes qui se retrouvent. C'est un peu comme dans le jazz, on fait un bœuf. Ben là, c'est un bœuf de clown, un bœuf d'artiste éclectique. Alors, ça va du numéro international de haut vol, de jonglage ou de trapèze, à des fiascos monumentaux. Mais c'est une prise de risque collective, un espèce de puzzle qui se fait depuis, finalement, maintenant, combien, 40 ans ?
Non.
30 ans ?
Ça fait 36 ans.
36 ans. Moi, j'ai rencontré Nino au début. Alors, ça commençait au Berry Zèbre, qui était, voilà...
Boulevard de Belleville, oui.
Voilà, qui était à l'époque un cinéma en déshérence, enfin... qui sentait la pisse et le coincé entre un kebab et qui a été réinvesti. Il y a eu des tribulations avec ce cabaret, parce qu'après il est passé aux voûtes, après il est passé dans différents lieux. On a été en Sicile jouer, on a été à la campagne, dans le Perche. Il y a eu de multiples rebondissements et à chaque fois une histoire humaine incroyable, basé sur du brick et du broc, mais qui tient la route depuis des années. C'est toujours plein et ça fait des soirées complètement... Alors il y a des tarentelles, il y a un petit orchestre de tarentelles qui fait la sauce, il y a quantité d'artistes, Nino en maître de cérémonie, souvent en duo, voilà, et des numéros.
Alors moi, je connais ce radeau depuis peut-être 2004 ou 2005. J'ai emmené mes enfants quand ils étaient tout petits, et puis ils ont grandi depuis, ils sont passés à d'autres occupations, mais je continue à fréquenter régulièrement le radeau. Alors, quand je l'ai connu, ça se passait aux voûtes, un endroit assez incroyable dans le 13e arrondissement, tout près des frigos, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie des lieux alternatifs parisiens. Et là, on rentrait dans c'était un hangar voûté qui devait contenir du grain ou je ne sais quoi. Et on se retrouvait, on était combien là ? On était plus de 100
150.
Il y avait des gens qui étaient assis par terre sur la piste.
Sur les tapis, hein.
Et il y avait des magiciens, il y avait des numéros de trapèze, il y avait entre autres un numéro extraordinaire avec une trapéziste et son perroquet.
Hélène de Vallombreuse.
Oui, c'était d'une poésie incroyable. Il y avait...
Les origines du radeau.
Ouais.
Ça s'est passé qui, à l'époque, moi, je vivais à Danube, côté de la place des Fêtes.
Ouais.
Et j'allais faire mes courses au boulevard de Charonne, parce que c'était les moins chers. Mm-hmm. Et j'ai fréquenté un bistrot qui s'appelait Le Rouge et le Noir.
Ouais. Ouais.
C'est pas un hasard. Où quand on rentrait, il y avait une très belle photo de Léo Ferré. Mm-hmm. Et là, je me suis branché avec le maître Henri. Viens, je m'appelle Lino. Mais qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis un artiste, tu sais, de cirque. Ah ouais. Écoute, il y a juste à côté, tu sais, il y a un vieux cinéma qui s'appelle Le Berry. Hein? Et là, c'est un peu bancal, parce que le propriétaire, il ne veut pas renouveler le bail à la dame, il veut faire un supermarché, tout ça. Mais va la voir, tu peux faire quelque chose pour elle. Hein? Et j'ai été tout de suite là, aller la voir. Je suis rentré, la porte elle était ouverte, il n'y avait personne. Je rentre dans le cinéma, il y avait un vieux film d'art et d'essai iranien. Et il y avait quatre personnes dans la salle. Un qui mangeait son sandwich et les autres trois, ils dormaient. Je suis ressorti, la dame. Après, j'ai rencontré le Tunisien à côté. J'ai dit, écoute, elle est où, la dame ? Ah oui, il s'appelle Christian. Elle est au bistrot en face. Je suis allé au bistrot en face. J'ai dit, elle est où, Christiane ? Ah oui, c'est moi. Elle était déjà bourrée. J'ai dit, Christian, bonjour, je m'appelle Nino. Voilà, j'ai quelques indices, j'aime beaucoup votre lieu. je vais faire quelque chose pour vous. Parce qu'ils m'ont dit que le propriétaire, il ne va pas renouveler le bail, il va vous mettre dehors.
Ah bon, écoutez, venez me voir demain. Mais pas à 2h de l'après-midi, parce que c'est venu à 9h.
Et le lendemain, j'ai été la voir. Et donc, voilà, super, elle était d'accord. J'ai dit, écoutez, tous les lundis, je commence ma mission qui s'appelle le radeau.
Tu avais déjà le nom?
Oui, oui, voilà. Là, au début, c'était les enfants du Berry. Ouais. Les enfants du Berry, les riches heures du Berry.
Ah oui, oui, oui.
Les riches heures du Berry, où j'ai invité tous mes copains artistes de rue, de cirque. Et tout. La première année, on faisait 40 personnes.
Ouais.
La deuxième année, on remplissait la salle, 120 personnes.
Ouais.
Troisième année, c'était le bang. La queue. Et on laissait les gens dehors. Il n'y avait plus de place.
Ouais.
Les journalistes, la télévision, tout à coup, l'histoire du Berry s'est devenue un truc incroyable. Mm-hmm. Tu vois? Et après, même Madame Kina, ministère de la Culture, le ministre, elle m'a appelé. Et j'étais avec Francesco, un clown de Fratelline. On était ensemble. Elle a dit, écoutez-moi bien, c'est super ce que vous avez fait, je vais vous donner, à l'époque c'était des millions et des millions de francs, tout ça, donc vous allez l'acheter, et après je vous donne encore des millions pour le restaurer, tout ça.
Une subvention, quoi.
Ouais. Et moi j'ai dit, non, Madame Knina, j'ai pas l'âge pour la gestion, moi je veux agir. Je veux être toujours dans ma lutte et dans mon combat, mais je ne peux pas accepter ça. Ah, d'accord. Et là, c'était Scholler, Francis Scholler, le mec du Cirque de Paris, qui a pris la balle au rebond et il a acheté le Berry.
Ouais. Ça, donc, c'était les débuts du radeau.
Du radeau, 1989.
Mais avant que tu t'installes à Paris, tu avais fait quand même pas mal de choses en Italie, en particulier à Messine, à Rome.
Énorme,
tu as participé à beaucoup d'expériences théâtrales. On n'aura pas le temps dans l'émission pour parler de tout ça. Mais il y a une petite histoire, j'aimerais bien que tu nous la racontes. C'est ta rencontre avec ce fameux commissaire... Sfacteria. Ça, c'est magnifique.
Ah oui,
c'est magnifique. Il y avait des arbres qui allaient être détruits, c'est ça?
Oui, parce que la mairie de Messine, ils avaient décidé de détruire le poumon de la ville, tous des plans d'arbres, pour faire un palais du sport en béton.
Ouais.
Et alors, à ce moment, moi, j'ai travaillé pour la FAI, la Fédération Anarchiste Italienne. J'étais dans la cellule du CLEC, Comité Liberté, Expression et Communication. Et donc, on s'est inventé une action.
Ouais.
Et donc, je me suis attaché à l'arbre central avec une grosse chaîne, avec katana, et on a jeté la clé dans les égouts. Et là, mica tout le monde, il est venu, tous les camarades, tout ça, et même les bus, ils s'arrêtaient, et tous les passagers, ils descendaient parce qu'ils défendaient la chose. Ah oui, c'est bien, on donnait des flyers. C'était super, jusqu'à quand, après, Sfacteria, le commissaire, il est arrivé, à police, tout ça. Ils sont appelés les pompiers, ils sont sciés le cadenas. Et ils m'ont embarqué au poste. Et moi, j'ai expliqué que c'était un truc pacifiste. Et c'était pour l'écologie, pour défendre la nature. Voilà, c'était ça. Et après, il y a eu des autres choses.
Il y a la réponse de Sfacteria qui te dit « J'ai arrêté des dealers, des bandits, des assassins, mais jamais des poètes ».
Voilà, c'est ça. Et à la fin, on est devenus copains. Parce qu'après, j'ai fait plein d'autres opérations avec Sfacteria. Et à la fin, on est devenus copains. Et il venait me voir au théâtre en Messine. Et il payait son billet.
Donc ça, c'est ta période italienne. Pierre, tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur cette
non, sur aspect de... Je pensais au radeau dans ce qu'il a de... Là, on parle d'un personnage et d'une tribulation avec ce commissaire, mais le radeau, ce qu'il a d'un peu magique, c'est qu'il fédère toute une bande de fous furieux et de gens de tous bords. Alors, ça, y a de la régie à tous les postes qui servent à un spectacle, on a vu passer quantité de personnes incroyables ancien capitaine de la France-Afrique, qui devenait. Qui s'était retrouvé dans la rue et qui se retrouvait aux manettes avec des clowns. Un autre qui. Enfin, toutes sortes de personnages pleins de. Comme attirés par la tendresse.
Moi, j'aimerais bien qu'on en cite quelques-uns, parce que, à force de fréquenter le radeau, je les connais un petit peu. Donc, il y a Ratsekou qui s'occupe de l'entrée avec sa casquette magnifique.
Voilà, que j'ai rencontré. Alors lui, au départ, il était gardien au Théâtre Grévin.
Ouais.
Et je l'ai rencontré à cette époque-là. Et après, il est devenu régisseur. Rate ses coups, on le surnomme Rate ses coups, parce qu'il rate pratiquement tous ses coups. Et je n'ai jamais vu une régie aussi foireuse que celle du radeau, mais ça finit par donner une poésie aléatoire qui fait partie prenante de ce spectacle qui est toujours mobile, qui n'est pas, c'est pas formaté. C'est l'inverse du formatage. Alors, il y a encore une fois de la très bonne qualité. Des ratages, mais l'ensemble est d'une poésie humaine.
Il y a une âme, Et même quand Ratsekou il se plante, tout le monde y pense que c'était un coup de mise en scène.
Oui,
que c'était exprès.
Il y a Valentine.
Valentine,
elle est extraordinaire. Bien. Alors je l'ai vue avec ses numéros d'assiettes là sur les bâtons. Ça c'est extraordinaire où elle court d'un bout à l'autre de la table pour que les assiettes ne tombent pas. Valentine, il y a Davis, vous parlez de...
Davis Bogino.
Davis, alors lui, c'est la bible du cirque, de la technique du cirque.
Voilà. Alors tous ces gens, on le voit pas, lui, il est en arrière-scène, on le voit rarement sur
la
scène.
Il fait la piste.
Et ça, c'est des personnages, j'ai écrit sur tous ces personnages, parce que, par exemple, Davis, c'est magnifique. Il est toujours dans l'ombre, il sert les artistes, mais il est toujours, lui, en retenue dans l'ombre. Alors, il fait attention si un agrès est mal attaché, il veille à la sécurité, c'est lui qui donne la petite tape à l'artiste quand il sort, et il est d'une humanité incroyable, et il a fait tous les grands cirques, et il connaît toutes les ficelles du métier sur sa dimension technique. Et c'est vraiment magnifique, c'est un... Il y a aussi on parlait du clown tout à l'heure, mais cette vision du métier, un métier, un travail qui s'apprend avec l'expérience, qui devient... Et c'est aussi beau que des chaussures de funambule,
voilà.
Un peu usées.
Tu cites sur une page, une très belle page, les femmes et les enfants d'abord, ouais. Sur le radeau, bien sûr. Hein. Au radeau, la femme tient une place essentielle. Suivant les lois éternelles propres au théâtre et au cirque, dont cette micro-société saltimbanque, s'applique naturellement et sans discours l'égalité des êtres. Le radeau n'est pas un monde d'hommes qui paradent, agrémentant leur numéro de quelques trophées aguichants, mais bien un partage collectif où chacun tient son rôle, une représentation de la vie réelle sans frontières entre le masculin et le féminin. Dans cette communauté, tous instinctivement et artistiquement soucieux de la liberté de tous, ne souhaitent obéir qu'à la seule autorité du talent.
Et voilà.
Et ça se sent, enfin, on le voit.
Oui, puis ça rejoint ce que je voulais dire tout à l'heure sur une vision de société idéale, même si c'est éphémère, et qu'il y a l'illusion évidemment d'une utopie.
C'est ça, oui.
Mais ça existe quand même au moins une heure, au moins deux heures, au moins une après-midi. On a ce partage sans hiérarchie, sans compétition, sans cupidité, juste le partage humain. Ça, c'est très, très précieux. Et d'ailleurs, on pourrait parler de l'économie.
Mais c'est important, justement. Il faut parler de cet aspect.
Comment ça fonctionne, voilà. C'est le partage de la recette à l'équité totale.
Ouais.
C'est Nino qui fait... alors, c'est assez poétique, la façon déjà dont il écrit la conduite du jour, c'est-à-dire qui sont les artistes qui vont passer dans quel ordre. Alors c'est un espèce de, il y a des mots en équilibre avec une main fébrile, c'est l'inverse de l'imprimante déprimante, quoi. C'est vraiment c'est de la poésie déjà. Donc il écrit ce premier poème, on passe tous, et à la fin c'est un peu le parrain, on pourrait entendre les mandolines et et Nino, il donne une petite tape et il donne 20 euros, 30 euros, un salaire de misère, mais à égalité.
Mais non, la dernière fois, c'était 60.
Ah.
Et 80 aussi.
Ah oui, c'est vrai. Quelquefois, ça monte.
Non,
mais tout ça pour dire que tout le monde revient. Ça n'est pas pour l'argent. Évidemment, quand il y a de l'argent, on est heureux. Mais tout le monde revient et ça existe. Le salaire... C'est ce lien qui est incroyable. On n'est pas dans la compétition. Et même, il y a des terrains culturels où c'est très étonnant, où la culture applique les mêmes lois qu'une entreprise libérale. Moi, ça me sidère.
Ouais. Nino, tu as ton mot à dire.
Non, je voulais dire qu'au fond, l'orado, c'est quelque chose qui... Il existe dans le off des off.
Ouais.
C'est quelque chose qui s'éloigne énormément des principes du show business.
Ouais.
Les artistes qui sont là, ils viennent d'abord pour amitié et parce que ils nous estiment.
Ouais.
Et ils travaillent pour un prix qui dépasse la valeur de l'argent. Le radeau, c'est une fête.
Ouais.
Voilà. C'est comme moi, j'invite tous mes copains chez moi pour boire un verre. On rigole. Ouais.
Voilà,
on rigole, on s'amuse.
Et puis, c'est une fête et un laboratoire. Parce que cette dimension approximative, incertaine, pleine de risques, où se mélange le meilleur comme le pire, eh ben, ça permet d'essayer des numéros. Et ça, c'est précieux aussi. Pouvoir travailler des numéros en public, tester des gags, tester des... Moi, j'ai eu la chance, sur cette scène-là, de pouvoir tester des tas de numéros que j'ai mis au point. Voilà, et c'est... Alors, en jazz, en musique, en... Oui, on n'a pas parlé de toute cette dimension musicale.
On va y venir.
Donc, tu as rodé tous tes numéros au radeau ?
Voilà, j'ai
fait... Et tu m'as jamais donné un pourcentage ? Non, c'est vrai que au radeau, c'était... Je ne sais pas, il y a eu des gens qui sont sortis, dont Eric Antoine,
oui.
Qui aujourd'hui c'est devenu une sacrée vedette.
Une vedette, oui, oui, oui.
Et plein d'autres. Plein d'autres qui sont en tournée partout dans le monde et qui sont tous sortis du radeau.
Oui, on a pu voir effectivement Eric Antoine au radeau quand vous étiez aux voûtes.
Oui, oui,
et
oui, oui.
Après le spectacle, dans la cour, il faisait des tours de magie comme ça, devant les enfants, la cour, après le spectacle.
Oui, et tout le monde pleurait après.
Quelque part dans le livre, il y a une phrase qui est très belle, c'est pour être au radeau, pour faire partie du radeau, il ne faut pas avoir peur du bide.
Oui, c'est le côté improvisé, mais improvisation, ça ne veut pas dire non professionnel, ça veut dire c'est comme dans le jazz, l'improvisation. Ouais. Il y a un canevas qui est très écrit. Et pour ma part, je travaille comme ça. Je travaille exactement comme un jazzman. Enfin, j'ai même des ponts dans la musique. Mais pour la part spectacle, je travaille exactement comme ça, avec une partie très écrite, un thème. Et puis hop, des envolées, des improvisations dedans. Mais il n'y a pas beaucoup de scènes où on peut encore faire ça, alors qu'avant, il y avait pratiquement, enfin je dis avant, ça fait vieux nostalgique, mais disons il y a 50 ans, il y avait beaucoup de scènes, de petites scènes, où tout n'était pas formaté, on ne devait pas être déjà un produit avant de commencer sa carrière. Et pour les jeunes, c'est magnifique, des terrains comme ça.
Ouais. Et on le sent lorsqu'on est dans du côté des spectateurs, lorsqu'on assiste au défilé au fil donc du spectacle, au fur et à mesure que se succèdent les numéros, on voit des moments très forts, très intenses, très poétiques, des moments difficiles, des moments compliqués, mais on sent bien que les artistes, les jongleurs, les acrobates, les magiciens qui sont là, ils sont portés quelque part par l'ambiance du et il y a une amitié qui se crée entre les spectateurs. Alors il y a beaucoup d'habitués, les gens reviennent en fait, c'est ça. Hein.
Mais je crois que les gens, parce que c'est difficile de capturer, de limiter par les mots une énergie.
Ouais.
Mais il y a une énergie de l'authentique. Les gens viennent, les gens aiment parce qu'ils sentent que c'est du vrai.
Ouais.
Alors si on se plante vraiment.
Ouais.
Et si on réussit, on réussit vraiment.
Ouais.
Et les gens aiment cette vérité-là.
Bien sûr.
Tout ça avec la chaleur des tarentelles.
Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumare. Non ci vedo e non mi accatto il lente per sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale. Spacca lire, spacco soldi, spacca puro ricente. Spacca scarpe, non m'accatta, poi fa falussa a te. E tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te. M'accattai nu cappelluccio tuosto 3 anni fa, e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà. E m'ha detto o cusutore, non lo posso arrevutare, l'ha già troppo arrevutato, vi consiglio d'oietà. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva la partitella tutte sere insieme a me. Ma mi faccio solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te.
C'est toujours Radio Libertaire, la voix sans du némètre de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de la société dans tous ses états. Aujourd'hui, nous accueillons Nino Montalto et Pierre Fatus pour le livre qui vient de sortir, Le Radeau Céleste, itinéraire d'un clown sicilien. Et on a évoqué donc, dans la partie qui précédait juste cette pause musicale, la naissance et la façon de travailler du radeau. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Nino ?
Toujours Roberto Murolo, notre grand poète napolitain.
Alors, la musique au radeau, c'est quelque chose d'important. Hein. La musique au radeau suit la recette du Varietà. Un petit orchestre à l'honneur accueille le placement libre du public, annonce et soutient les artistes. Tonino Cavallo en est l'âme ouvrière. Ce Calabrais authentique, qui ne sait pas lire la musique, qui ne connaît pas les mesures, possède une force naturelle, volcanique, une voix tellurique qui porte la tradition des chants paysans et de la musique populaire de l'Italie du Sud, comme la transe de la tarentelle. Voilà, c'est quelqu'un ce Tonino quand même. La musique est importante hein, dans la.
Magnifique, dans le radeau. Tonino, il a. Enfin, il y a cette phrase, il ne connaît pas la musique, mais la musique le connaît bien. Et il joue des tarentelles, donc. La tarentelle qui est cette danse, au départ, la tarentule, ouais, qui faisait sautiller à sa vue. Ouais. Et Tonino, il a cette... alors encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas formaté, c'est sa voix pure, ouais, et son chant. Et c'est très très fort. Alors il y a des cirques qui utilisent par exemple la musique tzigane, et ça donne une grande force, zingaro, etc. Ouais. Au départ. Au radeau, c'est la musique italienne, la tarentelle, et c'est très très fort. Ça fait un liant incroyable de force.
Tu parlais tout à l'heure de l'improvisation liée au jazz. Toi-même, tu es amateur de jazz. Ah ben,
amateur, je joue. Je joue et on parlait de la figure du clown. Et pour moi, le clown, c'est une des grandes figures comme le bluesman. Ouais. C'est-à-dire, c'est un personnage solitaire qui chante ses joies, ses peines. C'est comme... Et donc, moi, je joue aussi du blues. Et au radeau, j'ai pu expérimenter des fusions. Tu parlais tout à l'heure de Roland Kirk, oui, qui est un jazzman qui jouait, pour ceux qui ne connaissent pas, deux saxos.
En même temps, oui.
Et ben, y avait un clown qui s'appelait Dimitri, un clown suisse, oui, qui jouait aussi de plusieurs saxos à la fois. Moi, j'ai repris ça et je joue de l'afrobeat à deux saxes. qui est une conclusion hommage à toute cette musique. Voilà.
Il y a aussi un petit extrait là que j'aime beaucoup là, du livre. Le radeau, c'est l'esprit d'un immigré sicilien qui s'allie en France à un marionnettiste argentin pour présenter une magicienne allemande, des jongleurs russes, des trapézistes chinois, des clowns arabes et des perroquets d'Amazonie. Entre un balayeur savant qui lévite sur son balai, une vampe trapéziste qui chauffe les spectateurs, ou un philosophe bègue qui dialogue avec son chien, tous recréent l'espace d'une soirée, l'espace dérisoire d'une soirée, l'homme universel, le maillon manquant sur le chemin de l'évolution. Au radeau, j'ai l'impression que Fellini est assis en coulisses et qu'il prend des notes. Alors c'est vrai qu'il y a ce... Alors, on peut citer des noms, là. Le marionnettiste argentin, bon, c'est Diego Stierman. On peut citer Kaki, qui fait un numéro extraordinaire avec son balai. C'est juste de la pure magie, ça. C'est absolument incroyable. On peut citer, bon, les perroquets avec Hélène de Vallombreuse, qu'on a pu voir il y a quelques temps.
Et ça, quand j'entends cette coloration, ce côté multicolore, ça, c'est une réponse sans discours à tous ces satanés discours qu'on entend en
oui,
ce moment.
Bien sûr.
La culture, il n'y a pas de mensonge. La culture, c'est du métissage depuis la nuit des temps. Notre richesse, c'est ces confluences de tous bords depuis la nuit des temps.
On croise dans les coulisses du spectacle différentes attitudes et la comédie se poursuit parfois jusque-là. On croise d'authentiques clowns, des ânes professionnels et aussi des coqs. On peut rencontrer des êtres fragiles, anxieux de bien faire et d'être aimés, impliqués corps et âme dans un acte poétique aussi essentiel que dérisoire, de vieux acteurs philosophes, des sages excentriques. Ou d'autres, plus assoiffés de réussite sociale, des professionnels pour qui le spectacle est une compétition cachée, un espoir d'accession à la notoriété. Consciemment ou inconsciemment, dans une appréhension bourgeoise de la culture, celle-ci est devenue l'enjeu personnel d'une ascension plus qu'un outil pour créer du lien. Contrairement à sa mission, la culture aussi oppose parfois les classes au lieu de les abolir. Dans le melting pot du radeau, la baraque à foin, la cage à poules, même ces derniers sont embarqués, ébouriffés par ce joyeux bordel au désordre organisé. Dans ce drôle de laboratoire, personne ne cachetonne, car l'âme de chacun est garante du succès du soir. Le but visé n'est pas les lauriers d'une performance solitaire, mais le partage et l'attitude humaine pour y parvenir. Au radeau, personne ne se vend, mais tout le monde se donne.
Voilà.
Voilà. J'ai lu donc cette très beau paragraphe qui est intitulé Star System.
Mais voilà, c'est une façon de. Comment dire, je crois que tout est politique. Quand j'allume mon interrupteur, c'est politique. Ouais. Parce que j'allume l'électricité quand les trois quarts de l'humanité n'en a pas et meurt de faim. Quand on fait du spectacle, c'est politique. Ouais. Y a une phrase que j'aimais bien de Jérôme Savary qui disait il ne faut pas faire du théâtre politique, il faut faire politiquement du théâtre.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire chier les gens avec des discours lourdingues ou faire du militantisme raide, ça n'a aucun intérêt. Et moi, je n'ai rien à défendre d'autre que mon humanité et le lien que je peux avoir avec celle du voisin.
Bien sûr.
Et au radeau, il y a cette simplicité, sans discours, c'est comme ça. Mais c'est de l'humanité cash.
Ouais.
C'est Dario Fo, ça. Ouais. C'est Dario Fo.
Oui, bah c'est ça.
C'est Dario Fo.
C'est toute une tradition du théâtre.
Hein. Par rapport à Fellini, parce que moi j'ai été dirigé par Fellini.
Ouais.
À l'époque, j'étais avec la troupe de clowns italiens très fort, les Colombaioni.
Oui, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur cette partie de ton histoire. Ouais.
Troupe magnifique, tout ça. Et Fellini, il était très attaché aux Colombaioni.
Oui.
Pourquoi ? Parce que quand, en 54, Fellini a tourné La Strada, tous les informations du métier, c'était le grand Alfredo Colombaioni qui les avait transmis à Fellini. Oui. D'ailleurs, le petit chapiteau qu'on voit, c'était le chapiteau d'Alfredo Colombaioni. Les petits gars qui jonglent avec les chapeaux et tout ça, c'était Mario Romano et Carlo Colombaioni, qui étaient très, très adolescents.
Toi, tu as travaillé avec Romano, hein?
Romano.
Ouais.
J'ai travaillé aussi avec Carlo, j'ai travaillé aussi avec Alberto.
D'accord.
À tour de rôle.
Ouais.
Et le personnage de Zampano.
Ouais. Interprété par Anthony Quinn.
Mais magnifique. Ouais. Mais pourquoi il s'appelle Zampano? Ouais. Parce qu'Alfredo Colombaioni a dit à Federico Fellini, tu sais, ici, dans ce moment, il y a deux grandes familles de cirque. Un, c'est les Zampella, et les autres, c'est les Saltano.
Ah.
Et Federico Fellini a dit, OK, on fait Zampano. Et du moment qu'il était très attaché à cette famille de clowns, Federico Fellini, il nous a engagés sous contrat à Cinecittà et la plupart du temps, on ne faisait rien.
Ah oui.
On buvait des bières au bistrot et on jouait aux cartes. À la scopa. Un jour, le producteur, il est venu. Il a dit, mais Federico, mais i Colombaioni sont là sous contrat et ils ne font rien. Et Federico, lasciali stare, se dei vrai artisti hanno besoin de manger. Non, ma j'ai fait que des figurations, hein. La Cité des Femmes, Casanova, où j'ai dîné avec Donald Sutherland.
Ah oui.
Un mec fantastique,
oui.
Anarchiste.
Ah oui.
Ah oui, non. Et est-ce que c'était super que quand Fellini a tourné vogue le navire et la naveva, là, j'ai vu ma vraie silhouette.
Ah oui.
25 secondes. Je suis au début du film, je joue un violiniste qui fait la manche dans une place.
D'accord. tu as eu d'autres rencontres. Dario Fo, tu en parlais tout à l'heure, et raconte-nous cet épisode extraordinaire de magnifique. Cette attaque par les fascistes là, du théâtre.
Messine, oui. Théâtre Excelsior.
Oui.
Oui. Lui présentait son spectacle avec Franck Arame, la signore da buttare. Et nous, on était tous les militantes, bien sûr, tu sais, avec le groupe Officine, la FAI, Fédération Anarchiste, on était tous là pour le soutenir. Oui. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe qui... Dehors le théâtre, il y a un groupe de 200 nazis. À l'époque, c'était le groupe Ordine Nuovo. Oui. Mais c'était des nazis et violents qui nous attendaient tous à la sortie pour nous tabasser.
Oui.
Au bout d'un moment, mais que la rumeur, mais que, il y en a un nazi, naturellement, Dario Fo, il a entendu. Franck Arame, il a dit, écoute Dario, il y a une attaque fasciste. Lui, il a interrompu le spectacle. Il a dit, écoutez-moi bien. Maintenant, armez-vous. Démontez le théâtre. Les fauteuils, les chaises, prenez une arme contondante. Mm-hmm. Ok? Je vais me placé à la porte centrale, hein, et quand j'ai dit « on y va », j'ouvre la porte et vous sortez tous en criant. Il a fait ça, il nous a donné une charge, une émotion, une énergie. Il fallait se défendre. Hein. On ne peut pas être des victimes tout le temps.
Ouais.
Et là, dès qu'il a ouvert la... Et lui, en première ligne, Dario Fo, hein,
ouais.
Voilà! Et tous les fachos, ils sont tous partis en courant. Ils avaient peur.
Ouais.
Mais tous partis en courant. Et le lendemain, sur la Gazzetta del Sud, le journal de Messine d'extrême droite, un grand article, Dario Fo fout la merde à Messine, un grand violent. Il a attaqué les fachos et tout ça. Tu te rends compte?
Ouais.
Hein?
C'est extraordinaire. Ouais, Il y a aussi d'autres personnages que tu vas croiser, on ne va pas tous les citer. Il y a les jazzmen que tu as vus dans cette boîte de jazz de Palerme.
Chick Corea,
qui avait des origines par sa mère, calabraise, hein, c'est bien ça.
Son père, calabraise, et sa mère de Messine.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et moi, la première fois que j'ai invité Chick Corea à mon festival à Messine, Chick Corea, il est venu avec son père, Armando, sa mère, Rosetta, et sa femme et son fils. Et moi, j'ai emmené en voiture, j'ai emmené Rosetta à Casazza, le village où il était né, côté de Messine.
D'accord.
Oh, elle était émue. Et je lui ai fait même la pâte al forno.
La pâte au four,
la pâte incrociata, on dit en sicilien, qu'elle adorait. Et tout ça, bah avec Chic, on est resté copain énormément. Hein. Tous les fois qu'il venait à Paris, j'avais toujours une invitation. Et la première fois quand ma femme, elle est violoniste, et qu'elle adorait Chic Corea, quand j'étais au Mogador, et à la fin du concert, je suis rentré dans le backstage pour voir Chic. Je lui ai présenté Chic à ma femme. Mm-hmm. Il lui a serré la main. Ma femme, il n'a pas lavé la main pendant 12 semaines.
Il y a aussi une rencontre. Tu croises Pier Paolo Pasolini.
Ah oui.
Et tu lui demandes pourquoi il porte des lunettes noires.
Oui. Tu sais, Pasolini, c'était un grand poète.
Oui.
Une humanité énorme.
Mm-hmm.
Poète. C'est quelqu'un qui voulait réellement changer le monde.
Ouais.
Bien sûr, communiste, mais homosexuel. Et il portait des lunettes noires, comme ça, personne ne voyait quand lui regardait les gens adolescentes qu'il adorait.
Et il t'a dit... Je veux pas qu'on me vole mon regard.
Oui, c'est ça. Hein? C'est ça, oui.
Je veux pas qu'on me vole mon regard.
C'est ça.
Ça, c'était incroyable, cette,
magnifique,
cette réponse.
Magnifique. Mais quelle humanité, quelle poésie.
Tu as participé aussi à des expériences théâtrales assez modernistes. Tu le dis, ouais. Pierre, tu en parles. C'est à la fois l'écart entre le théâtre de rue, le théâtre populaire, dans son expression la plus... j'allais dire traditionnelle, mais celle qui se rattache à des... aux saltimbanques. Et puis aussi le living theater, tout ce mouvement du théâtre moderne.
Voilà, ce livre, à travers cette biographie d'un clown sicilien, j'ai trouvé intéressant de raconter une trajectoire, finalement, dans quoi, un quart de siècle ou une moitié de siècle, du théâtre, dans laquelle moi je me retrouve, parce que j'ai eu pratiquement le même chemin dans les années 70, et il y a eu toute une. Et il y a des bouleversements de théâtre, des grands inventeurs dans le théâtre. Moi je suis passé au théâtre du Soleil, mais là on parle du living théâtre, on parle de. Et tout ça enrichit. Si on voit le clown comme un acteur, parce que c'est d'abord un acteur. Un clown qui n'est pas acteur, ça ne marche pas. Et c'est une grande figure du théâtre, le clown. Et c'est intéressant de voir dans quel héritage on a de nous, en faisant nos pitreries aujourd'hui. Ça vient de quel héritage? C'est intéressant de le savoir. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et cette lignée dans le théâtre... qui passe par toutes ces expériences, et le Roy Hart Théâtre, qui était un travail sur la voix incroyable, le Living Théâtre, voilà, c'est toute cette... et cet amour d'un théâtre du corps, un théâtre tout court, quoi, parce qu'un théâtre sans corps n'existe pas, mais cette expression charnelle, incarnée, qui fait cruellement qui fait cruellement défaut aujourd'hui dans une espèce de vertige de désincarnation,
de virtualisation.
Oui, tout est numérisé. Alors il y a des grandes choses qui sortent de ça. Il s'agit pas d'être mais il y a une perte du lien. Il y a une, pour l'individu, le consommateur roi, il y a une perte du lien, du partage, qu'on garde dans ces petites oasis du radeau, ou des expériences de théâtre qui existent encore. Mais mon Dieu, comme c'est précieux, cette chance de pouvoir être ensemble et faire la fête.
À un moment donné, tu cites les origines ou les influences du radeau et de Nino, le café Voltaire des dadaïstes de Zurich, Hugo Ball et toute cette tradition, enfin cet arrière-plan.
Mes amours, hein, moi j'étais un grand accro du mouvement dadaïste.
Ouais.
J'ai été même allé voir le cabaret Voltaire quand il était fermé. Après, je suis retourné dès que j'ai su qu'en 2004, ils avaient réouvert.
Ouais.
Et je suis allé avec ma femme et on a bu un verre. Et là, j'étais en extase totale. Et c'est Hugo Ball, Tristan Tzara. Ça, c'était des gens qui voulaient réellement faire une attaque à la culture officielle, conventionnelle.
Mmh.
C'était des grands provocateurs. Donc, c'est-à-dire que, pour nous, l'art officiel, c'est un produit pharmaceutique pour imbéciles.
J'aimerais, avant la prochaine pause musicale, lire cet extrait qui s'intitule « Les saltimbanques ». Les saltimbanques sont émouvants. Ils jouent comme des enfants qui se déguisent, bravant les lois de l'équilibre, de l'attraction, faisant des pieds et des mains pour se faire remarquer, en convoquant des énergies profondes pour l'exhibition du meilleur de soi. Il y a du pathétique et de l'héroïsme dans cette représentation de l'humanité qui s'agite et brille pour être aimée. du chien savant devenu client d'un restaurant surréaliste à la contorsionniste qui s'allume une cigarette la tête dans le cul, jonglant avec les clichés primaires et les fantasmes inexpliqués, ils offrent, par leur bravoure multicolore et bizarre, la preuve du mensonge et de la norme.
Comment ma pêche est à campaner? Comment ma pêche est à campaner? Aïe, t'skere, aïe, t'skere, à campan ma pêche, oui. Majakura, majakura, mietza sta capa una cosa passata, passata, ma sento. Mi fermo qua, mi fermo là, e a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzo io, la gente dice fuite, fui, il viso del folle, l'ho fatto per te. Il grugno del pazzo, lo tengo per te. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi, la faccia del pazzo, l'ho fatta per te. Come mi pesa sta campanè, come mi pesa sta campanè, ai zgare, ai zgare, a capo mi pesa qui. Maggiacura, maggiacura, oggi il dottore mi ha detto, mio caro, voi state inguaiati, guardate qua, toccate qua, e a reta capa una specie una palla di nissa trovate. E tosta io, e tosta io, ma come tosta sta palla di lì, il viso del folle, l'ho fatto per te. A capo capallo, a tengo per te. Ho venduto 3 quadri e uno schizzo, 4 penne di struzzo e un arazzo. La faccia del pazzo, l'ho fatta per te. Come mi pesa sta campanè, come mi pesa sta campanè. Ai zgare, ai zgare, a capo mi pesa qui. Maggiacura, maggiacura, i che m'hai fatto, o donna perversa, bugiarda e spergiura. Che pozzo fa? Che pozzo fa? Se mi suicidio vedendomi morto mi metto paura. Ma già sparà? Non ti sparà. La gente dice che è meglio accampà. Il viso del folle, l'ho fatto per te. Allora mo campo, che è meglio per me. Mo mo mangio una sarda e una pizza, una scamorza e una capa e merluzzo. O pranzo do pazzo, lo faccio per te. Come mi pesa sta campanè, come mi pesa sta campanè, ai zgare, ai zgare, a capo mi pesa qui. Care, care, sta capo, sta capo, sta capo mi pesa qui.
Toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste, de la société dans tous ses états. Aujourd'hui, avec Pierre Fatus et Nino Montalto, nous parlons du Radeau Céleste, itinéraire d'un clown sicilien, un livre paru tout récemment aux éditions Julien Nègre. Et donc, avec Nino et Pierre, nous évoquons ce merveilleux, merveilleux cabaret, musical, cirque, lieu d'échange, de fraternité et de lien qu'est le radeau. On vient encore d'écouter un extrait donc, de ce bon chanteur napolitain. Et tu chantais...
Roberto Murlo.
C'était le titre de la chanson, c'était...
Ah, Maggiacura. Il faut que je me soigne.
Alors, tu faisais justement remarquer, cher Nino, pendant la pause musicale, on n'a toujours pas dit, alors que l'émission a commencé il y a 1h15 maintenant, que le radeau, ça se passe le dernier dimanche du mois, c'est ça, à 20h32, c'est au théâtre Clavel.
3 rue Clavel, 19e Paris, métro Pyrénées.
Métro Pyrénées. Comment on fait pour réserver les places? Parce qu'il faut réserver quand même, non? Comment ça se passe?
Pour réserver les places, 06 38 46 90 23.
On va le répéter.
06. 06 38 46 90 23.
Voilà. Il n'y a pas de site internet, hein?
Ah oui.
Si.
Le site internet, c'est nino-montalto.fr.
Nino-du-6-montalto.fr.
Voilà, c'est
voilà.
Ça, ouais.
Voilà. Bon. On va le répéter juste à la fin de l'émission. Dans le quart d'heure qui nous reste, j'aimerais quand même qu'on cite quelques-uns de très nombreux artistes qui sont passés, qui passent encore au radeau. Tout à l'heure, on a cité Kaki, donc ce balayeur magicien, hein, donc qui fait vivre un ballet, simplement. Son ballet, il est vivant, c'est incroyable. Hein.
Oui, un clown mime.
Un clown mime qui fait des miracles avec un simple ballet. On a aussi évoqué Hélène de Vallombreuse, mais qui ne fait plus de... Je ne sais pas, elle participe encore au spectacle, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue.
Et elle est partie à la retraite, tu sais, pour une trapéziste à la retraite,
oui.
Qu'il y a sa place à la maison de retraite des artistes du cirque Scandicci en Italie.
Il y a un magicien qui est absolument extraordinaire, c'est Bebel.
Ah oui, Bebel.
Alors ah oui.
J'ai tenu à écrire une page
oui.
sur lui.
Oui, ça j'aimerais bien qu'on la cite parce que c'est magnifique, ouais.
Voilà. Ah ben oui, peut-être c'est plus simple que de...
Non, si il faut que je la retrouve. Attends, je l'avais noté, mais si je ne la retrouve pas, il faudra peut-être que tu le dises. En tout cas, c'est un exemple magnifique. Vous êtes dans un restaurant en Sicile.
Oui, oui. Bah, c'est un personnage, il est étonnant parce qu'il...
J'en trouve plus la page, désolé. Vas-y. Bebel, c'est un prestidigitateur qui fait des tours de cartes absolument extraordinaires, mais vraiment. Hein. D'autant plus extraordinaire qu'un jour, je suis descendu sur la scène pour. Il avait besoin de témoins. Comment on appelle ces. Oui, c'est, il choisit deux spectateurs.
Non,
donc,
des compères. Voilà. Non, c'est pas des compères. Non, c'est des gens du public.
Voilà. Et je me suis assis à côté. Il a fait les tours et c'était absolument incroyable. Je n'ai rien vu alors que je fixais comme ça tout le paquet de cartes. Et donc. Vous êtes ensemble en Sicile et donc et non, enfin, désolé, c'est moi, c'est ma faute.
C'est le moment improvisé.
Voilà, exactement. Vas-y, je te laisse prendre la parole sur Bebel.
Oui, voilà, Bebel. C'est un petit extrait du livre, une page qui s'appelle Les Enchanteurs. Dans cette dimension magique du spectacle, la palme du merveilleux revient sans doute à Bebel, un prodige des cartes, personnage charismatique dont la poésie naturelle convoque instantanément chez le spectateur, sans l'aide d'aucun folklore, costume ou artifice, tout l'imaginaire des mages et des pouvoirs sorciers. À l'image de cette tournée en Sicile où, endormi au restaurant dans un profond sommeil, il s'éveille soudain pour exécuter un tour sans la moindre anticipation, laissant l'assistance comme possédée par une grâce qui confine au surnaturel. Chez lui, aucune œillade racoleuse, aucun effet souligné. Si le travail est la moindre des politesses, cet as des as a l'élégance de le faire oublier pour nous laisser rêver. Ça voilà, c'est un personnage magnifique,
ouais,
merveilleux.
Ouais, ouais. Il y a aussi ce clown Victor Vassiliev.
Waouh !
Voilà, du cirque russe, du voilà. cirque de Moscou.
Tu as failli rencontrer Popov, Oleg Popov.
Mais oui.
Tu peux nous raconter comment ça a failli se faire ?
Mais oui, c'était grâce à Victor Vassiliev. Un jour, il y avait le cirque de Moscou, ici garé à Paris. Écoute, on va, parce que lui, il connaissait bien Popov. Parce qu'il avait travaillé avec son père, avec Constantin Vassiliev. Donc viens, on va le voir. Et donc Popov nous avait rendez-vous à 10h du matin dans sa caravane. Et nous, on est arrivé et Popov, il n'était pas là. Il nous avait laissé des saucisses...
Il était parti à Euro Disney.
Oui. Des saucisses sèches et 2 bouteilles de vodka sur la table. Et avec un petit mot à Victor, en russe, en disant, écoutez, il y a quelqu'un qui m'amène à Euro Disneyland, j'ai envie de voir. Je reviens vers 1h, 2h, après on mange ensemble. En attendant, il nous avait préparé des vidéocassettes, tout prêt. Et donc avec Victor, on a commencé à entamer les bouteilles de vodka, on mangeait les saucisses, et on voyait des vidéocassettes de Karandash. De Popov,
oui, de
Nikolaïn. Mais génial, ouais. Jusqu'à quand on a bu, c'était 4h de l'après-midi, Popov n'était pas encore là. Et on était ivre mort. Et j'ai dit, écoute, on y va. Parce qu'il fallait à 6h que je cherche mes filles à l'école. Et donc on y va, et Victor il a écrit un mot, et j'avais acheté un livre de Popov, et je lui ai laissé sur la table, et Victor il a dit, est-ce que tu peux lui signer ? Est-ce que tu peux le dédicacer ? Voilà. Et après il est parti, et après le lendemain Victor il m'appelle, il m'a dit, écoute c'est bon, ce soir on a des billets d'entrée gratis pour voir le cirque de Moscou, où Popov il va nous accueillir, et il t'a déjà signé le livre. Avec toutes ces excuses, j'ai dit, Victor, est-ce qu'il y a encore deux bouteilles de vodka?
J'aimerais qu'on parle un peu de Pierre Soubestre.
Ah oui. Je l'adore. C'est le partenaire idéal.
Tu m'en fais baver quand même, hein? Écoute, mais à chaque fois tu lui refais le coup et je me dis, mais quand est-ce qu'il va se venger?
il en prend plein la gueule et il s'est jamais rébellé.
Ah oui, vraiment, je sais pas où tu l'as trouvé, mais garde-le celui-là.
Au contraire, il me dit, Nino, t'es vraiment quelqu'un de très généreux.
Voilà, donc Pierre Soubette, c'est celui avec qui tu fais tes numéros de... Il y a Diego aussi, donc on a un peu évoqué Diego Sierman, c'est un vieux complice.
Et ça fait 30 ans.
Voilà.
30 ans.
Et vous faites ensemble un petit numéro...
Le zèbre à pois.
Le zèbre à pois.
Oui, la puce acrobate Pepita.
Voilà, Pepita. Alors ça a pris un four extraordinaire au Luxembourg, ça n'a pas du tout marché.
Oui, complètement.
Oui, mais c'est normal, il n'y avait pas de puce. Ils l'ont repéré tout de suite. Mais moi, je pensais qu'il y avait vraiment une puce. Pepita la puce. On peut en citer encore beaucoup d'autres. Miss Valentine, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a parfois des jongleurs qui viennent avec... comment il s'appelle ce jongleur avec ses ballons de football?
Ivan Radev.
Oui, il est extraordinaire.
Génial.
Il est, à chaque fois, c'est un triomphe avec lui.
Lui, c'est des numéros de...
De très haute volée, oui.
De très haute volée.
Des gens qui travaillent dans des grands cirques internationaux.
Là, il est prochainement au...
Au cirque de demain.
Voilà, Massy. À Massy, oui. Au cirque de demain.
Otto Vesely.
Waouh, magicien fou.
Oui. Alors, il travaille au Crazy Horse à une époque, non?
Il a travaillé au Crazy Horse. Ouais. Il a fait l'Olympia. Il est venu en Sicile avec nous plusieurs fois.
Moi, je l'ai croisé au Crazy Horse.
Ouais.
Et c'est un personnage... Alors, lui, il a complètement décloisonné la présentation de la magie. C'est empreint de libération sexuelle et de... et d'une fantaisie... comment dire, il est complètement insolent et magique.
Un jour, pendant que qu'on faisait la queue pour acheter des billets devant le théâtre, devant moi, il y avait deux personnes que j'avais déjà vues. Je regardais, mais d'où ils sortent là? C'était Dino et Shirley.
Ouais.
Mais ils venaient en spectateur.
Ouais.
Donc c'était des ils venaient, mais ils ont jamais fait de numéro avec vous.
Non.
Ils étaient venus
en spectateur.
Ouais, donc il y a toute une ribambelle comme ça de jongleurs, d'artistes, de musiciens, de magiciens. Gérard Majax, Pierre Etex.
Pierre Etex, ouais. Jacques Delors.
Ouais.
C'est...
Voilà, donc des jongleurs, des magiciens, Eric Lonson. On a parlé tout à l'heure d'Eric Antoine qui maintenant mène la carrière.
Ah oui, maintenant. Voilà, la dernière fois que j'ai appelé, j'ai dit, Eric, tu me fais quelque chose à Radon. Non, tu sais, Nino, maintenant, moins de 30 000 euros, je ne travaille pas.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer aussi qu'il y a toutes les générations.
Oui.
C'est-à-dire, parlait de Majax et Pierre Etex, mais...
Il y a les jeunes.
Il y a toutes les générations qui se côtoient. Alors, le vieux singe et le nouveau-né, c'est aussi très sympa dans la passation d'un métier et dans les échanges qui se créent comme ça, tous azimuts.
On va bientôt clore notre émission avec vous. C'est dommage parce qu'on aurait encore des tas de choses à dire. J'invite vraiment les auditeurs qui voudraient découvrir le radeau d'aller le voir au Théâtre Clavel, donc le dernier dimanche du mois à 20h32, hein, c'est bien précis, en réservant auprès de Nino. Tu vas nous répéter le numéro de téléphone, Nino.
06 38 46 90 23.
Voilà. Et juste pour terminer, quelques mots sur les salles. Je suis l'enfant du mariage de deux cultures parallèles. La première, populaire et illettrée des banquistes, des artistes de cirque et des manuels de la culture. De l'autre, celle du théâtre intellectuel, des avant-gardistes littéraires et jongleurs de symboles. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui définit tout à fait votre démarche et une grande joie du spectacle. Un dernier mot, oui, Pierre, vas-y.
Non, ben moi je dirais que ce personnage magnifique du clown qui transmet tant de choses, dans l'époque où on est, où tout est inquiétant, enfin où beaucoup de choses sont inquiétantes, y a, même sous les bombes, dans une cave, dans les décombres, il y aura toujours un père pour se coller un quartier d'orange dans la bouche et rouler des yeux pour faire rigoler ses mômes. Le clown, c'est ça. C'est une espérance inoxydable et éternelle.
Merci Pierre, merci Nino. Je rappelle le titre du livre, Le Radeau Céleste, itinéraire d'un clown sicilien, signé Pierre Fatus. C'est aux éditions Julien Nègre.